Alors, faisons le point encore une fois ce matin sur la COVID, les chiffres de la fin de semaine, des comparatifs aussi avec ce qui se passe ailleurs et un coup d'œil sur les recherches qui concernent les médicaments, les vaccins, avec le Dr Carl Weiss. Dr Weiss, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Alors, donc, on a vu encore une fois les chiffres hier à environ 1100 cas. Est-ce que, selon vous, on est en train de stabiliser la barque?
Oui, on l'a stabilisé parce que là, le nombre de cas reste relativement dans la même, je dirais, fourchette depuis maintenant une bonne semaine. Vous vous rappelez, au début, on doublait nos chiffres quasiment toutes les semaines. Et là, il faut faire attention aux variations 850 une journée et 1100 la journée suivante. Souvent, c'est dû au fait que on teste plus une journée par rapport à l'autre, on rattrape un petit peu une journée par rapport à l'autre, mais de façon pratico-pratique, on est, je peux dire, dans une fourchette entre 1100, 1000, 1150, 950 cas. Donc, on est sur un plateau maintenant, c'est une bonne nouvelle, on n'augmente pas le nombre de cas maintenant depuis une semaine, on ne devrait pas continuer à augmenter de façon folle, à moins qu'on change notre comportement et qu'on devienne moins discipliné.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « oui, mais le Québec demeure l'endroit au Canada où c'est le plus élevé en termes de cas. On fait des comparaisons avec la Colombie-Britannique, avec d'autres pays en Europe. Je sais que d'autres pays en Europe, c'est la flambée des cas aussi. » Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments-là?
Bon, alors, par rapport aux autres pays européens, il faut savoir qu'en Europe, il y a une deuxième vague qui est assez sévère en termes de nombre de cas. L'Europe de l'Est est beaucoup plus touchée actuellement qu'elle l'était lors de la première vague. Certains pays d'Europe, vous le voyez, la France, l'Espagne sont quand même touchés de façon importante. D'autres pays d'Europe, par contre, font extrêmement bien, comme l'Italie. Alors, si on regarde le Canada dans son ensemble, je vous dirais que le Canada actuellement est relativement épargné, fait relativement bien si on se compare à certains pays européens, mais on ne veut pas être, je vous dirais, au niveau des pays européens. En ce qui concerne le Québec, oui, le Québec, un peu comme durant la première vague, fait pire que les autres provinces canadiennes. On voit qu'on a beaucoup plus de taux, surtout par capita, donc c'est-à-dire il faut le mettre par 100 000 de population, et probablement que c'est dû à un ensemble de facteurs, entre autres, moi je pense sur le fait que l'école a joué un rôle initialement, et je pense pas qu'il faut pas, encore une fois, faut pas dire que les enfants doivent pas aller à l'école, mais le fait qu'on n'a pas fait porter de masque aux enfants initialement, et qu'il y a eu des contacts au niveau de l'école ou dans ce qui a entouré l'école. On a eu une augmentation importante des cas au début du mois de septembre. La mi-septembre, ça s'est accéléré. Et de la mi-septembre jusqu'au début octobre, c'est là qu'on a eu notre accélération importante de notre phase au Québec. Et là, on a atteint un plateau parce qu'on a fait des efforts. C'est-à-dire qu'on a fermé beaucoup de choses. On a demandé aux gens de pas trop circuler. Les Québécois ont fait des efforts. Et on a donc cassé un petit peu la courbe. Et c'est là où on en est actuellement. Ce qui est quand même aussi encourageant, même si le nombre d'hospitalisations augmente. On ne peut pas dire qu'on est débordé actuellement dans le système. On continue de fonctionner globalement. C'est sûr qu'il y a des hôpitaux que c'est plus dur qu'ailleurs, mais globalement, on continue de fonctionner quasiment comme on fonctionnait il y a un mois. Oui, on a plus de cas de COVID, mais c'est pour l'instant extrêmement, extrêmement gérable.
OK. On a beaucoup parlé de la différence suédoise, des mesures qui ont été prises en santé publique là-bas, qui allait à l'encontre de ce qu'on voyait ailleurs. Il y a eu beaucoup de reportages en fin de semaine. Et là, les gens qui vous écoutent se disent, est-ce qu'on aurait pu vivre plus librement et avoir le même portrait au Québec? Autrement dit, est-ce que le confinement était nécessaire?
Ben oui, je pense que le confinement était nécessaire. Écoutez, la Suède, c'est pas vraiment un modèle. La première chose, ils voulaient atteindre l'immunité de groupe, ils l'ont pas atteint, donc leur stratégie de ce côté-là a failli. La deuxième chose, quand on compare la Suède en termes de décès par rapport aux autres pays scandinaves environnants, que ce soit le Danemark, la Norvège ou la Finlande, qui ont des systèmes de santé, on va dire, relativement similaires, la Suède a un résultat catastrophique. Troisièmement, il y a en Suède aussi des différences importantes en termes de mortalité entre différentes régions de la Suède selon la densité de la population. Et quatrièmement, la Suède a eu un confinement quand même. C'est-à-dire que les gens ne doivent pas penser que la Suède, on a continué de vivre comme si de rien n'était. On a quand même demandé aux gens d'essayer d'avoir une certaine distanciation, de ne pas faire trop d'attroupements. Donc, il y a eu certaines mesures qui ont été prises en Suède. Donc, ce n'était pas une vie, je vous dirais, totalement normale. Mais vous voyez, par exemple, des pays d'Europe où certaines activités continuent. Hein. On voit que, par exemple, en France, en Espagne, les restaurants, en tout cas, sont ouverts jusqu'à une certaine heure. Il y a encore une certaine activité sociale, mais il y a aussi un nombre de cas très élevé dans ces pays-là comparé à ce qu'on voit au Québec. Donc, le modèle suédois, pour résumer et conclure là-dessus, personne ne dit actuellement que c'est quelque chose où on a eu un effet bénéfique. Le modèle de laisser finalement l'immunité de groupe, même pour des pays où la population est beaucoup plus jeune en moyenne que le Québec, ça n'a pas été, je vous dirais, un succès. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ouvert les vannes, le nombre de cas et de décès éventuellement a augmenté de façon importante. Et l'exemple de ce pays-là, ce serait Israël, par exemple, qui a très, très bien fait lors de la première vague, qui a complètement ouvert les vannes lors de la seconde, qui a une population un peu plus grande que le Québec, mais similaire, mais beaucoup plus jeune que la population québécoise, mais qui a eu une deuxième vague pour plusieurs raisons, qui a été beaucoup plus importante.
Bon, maintenant, parlons médicaments, vaccins. Depuis la semaine dernière, depuis la dernière fois où on s'est parlé, je lisais qu'il y a 4 médicaments contre le virus qui, semble-t-il, selon une étude, ne donnent pas les résultats escomptés, qu'on s'attend à ce que le vaccin, ça ne soit pas vraiment là, avant le début minimum de 2021. Il y aura peut-être 2 doses. L'immunité va être bonne pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'on sait de nouveau là-dessus? Là?
Bon, en ce qui concerne les médicaments, il n'y a rien de fracassant, on le savait. Tous les médicaments qui ont été testés, l'étude qui a été faite récemment n'a pas ajouté grand-chose au moulin. On sait qu'il n'y a pas actuellement de médicaments super efficaces contre la COVID, sauf de très vieux médicaments comme la dexamétasone, les stéroïdes, qui ont une certaine efficacité. Quelques médicaments expérimentaux qui ont probablement une certaine efficacité, comme des anticorps monoclonaux, et le remdesivir, qui, selon les études, balance d'un côté ou de l'autre, qui a, je dirais, une efficacité minime, mais qui ne va pas changer le paysage du traitement de la COVID. Donc, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et en ce qui concerne les médicaments, il va falloir attendre probablement plusieurs années, quand je dis plusieurs années, peut-être 1 an et demi, 2 ans, avant que les médicaments qu'on a actuellement en développement pour la COVID, spécifiquement faits pour la COVID, soient vraiment testés. Donc, les études commencent, mais c'est très, très précoce. Donc, en ce qui concerne les médicaments, mis à part de vieilles affaires qu'on a ressorties des tiroirs, on n'a pas quelque chose de fracassant. En ce qui concerne les vaccins, je pense qu'il faut quand même remettre les choses en perspective. Un vaccin, normalement, ça prend 8 à 10 ans avant de pouvoir être mis sur le marché. Là, on est en train de faire le tout dans une phase accélérée contre un virus, le coronavirus, contre lequel on n'a jamais fait de vaccin dans l'histoire. Donc, c'est aussi une première. Par ailleurs, on a pris dans certaines compagnies, je dirais, une stratégie risquée, c'est-à-dire on essaie de faire quelque chose avec une technologie extrêmement avancée alors que c'est la première fois qu'on se lance dedans. Et tout ça mis ensemble fait que l'avancée des vaccins n'est pas aussi rapide que ce que les gens pensaient que ça allait être. Et on a aussi, pour certains vaccins, frappé un mur en termes de est-ce qu'il y a eu des effets secondaires importants? Vous avez certainement entendu au moins le vaccin d'AstraZeneca qui a été arrêté, l'autre vaccin de Johnson & Johnson, où pour l'instant on revoit certaines affaires. Donc tout ça, ça dit que, est-ce qu'on va avoir un vaccin? Je vais vous dire fort probablement, mais je vous dirai pas absolument certainement. Deuxièmement, est-ce qu'on va avoir un vaccin quelque part en 2021? Il y a des chances, mais encore une fois, est-ce que ça va être au printemps? Est-ce que ça va être un peu plus tard? Il ne faut pas oublier que le vaccin devra être sécuritaire. Oui, il va falloir avoir 2 doses de ce vaccin-là, ce qui va dire qu'au point de vue logistique, ça va être un peu plus compliqué à administrer et on ne pourra pas immuniser tout le Québec en temps de 6 semaines. On n'en aura pas assez de vaccins. Puis il ne faut pas oublier non plus une chose avec les vaccins, c'est que très souvent, lorsqu'on on les étudie chez des gens en santé. C'est-à-dire quand on fait une étude pour les vaccins, on essaie d'éliminer des études tous les gens qui ont des problèmes particuliers. Donc on dit on veut des gens de 18 à 60 ans qui n'ont pas de cancer, qui n'ont pas de maladie ici, qui n'ont pas de maladie inflammatoire du tube digestif, qui ne sont pas cardiaques, qui ne sont pas, etc. Donc ça, ce que ça signifie souvent que les données sur les vaccins nous proviennent initialement de gens en super bonne santé. Donc, si on vous dit le vaccin est efficace à 90 %, ça va être chez dans ce groupe-là. Après ça, on a moins d'études sur l'efficacité des vaccins dans des populations plus à risque, c'est-à-dire on ne va pas étudier d'emblée les gens qui ont 80 ans et plus. Et souvent, on sait que ces gens-là, c'est vrai par exemple avec la grippe, c'est vrai avec d'autres vaccins, répondent un peu moins bien aux vaccins. Ou des gens qui ont de la chimiothérapie ne répondent pas aussi bien. Donc, ces gens-là, on va les vacciner, mais peut-être que l'efficacité du vaccin, ce que je veux dire, ne sera pas de 90 % dans ce groupe-là. Elle sera peut-être de 60 %. Donc, la protection ne sera pas la même que dans la population générale. Alors, les vaccins, je vous dirais, on aura des obstacles sur la route. On aura probablement quelques surprises en termes d'efficacité ou de sécurité. La course du vaccin est engagée, mais on n'aura pas un vaccin probant, efficace et sécuritaire quelque part avant 2021.
En conclusion, on va devoir apprendre à vivre avec le virus pendant encore des mois et des mois.
Tout à fait. En réalité, on va devoir apprendre avec ce virus-là parce qu'il faut dire qu'on traite beaucoup mieux les gens actuellement. Donc, on s'est beaucoup amélioré sur la façon de traiter les cas sévères. Ça, c'est un gros gain, mais on n'a pas de vaccin qui s'en vient de façon, je dirais, immédiate. On n'a pas de médicaments miracle non plus aux portes. Et l'immunité de groupe au Québec, dans le meilleur des cas, elle touche 7-8 % de la population. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont encore, je vous dirais, susceptibles.
Merci beaucoup, Dr. Weiss.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, bonne journée. Le Dr. Carl Weiss, microbiologiste, spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général juif de Montréal, 7h37.